FM 93.
Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y'en a qui fument des petits bouts, moi je mange. Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'aime mieux rester dans ma cuisine, puis je mange. Quand je vais chez vous, moi je mange. Je suis bien partout quand je mange.
8h09, à que Québec se lève. Il me semble que j'ai jamais entendu autant c'est des extraits de cette toune-là que depuis le début de la pandémie. Mais là, ça n'a pas rapport à la pandémie. Ça a rapport au 4 juillet qu'on a célébré hier aux États-Unis, parce que c'est la fête nationale.
Oui.
Et à chaque 4 juillet, ça se passe-tu à Washington ou...
Ça se passe dans l'État de New York. Okay. Moi, j'ai Brooklyn devant moi.
Ah, OK. Ouais. Donc, dans la ville de New York, dans le quartier Brooklyn. C'est le concours annuel de mangeurs de hot dogs.
Des rotteurs.
C'est une tradition là-bas depuis des années. Et il y en a un qui gagne à peu près tout le temps. Il est comme trop fort pour la ligue. Will, t'as suivi la compétition, là.
Absolument. Moi, j'aime ça suivre ça à chaque année. Pas pour aller déguster un hot dog après, parce que eux, le mot dégustation, ça ne fait pas partie de la compétition.
Non, c'est plus engouffrage.
Hein? C'est incroyable. C'est
pas chic.
Ça se passe à chaque année. Ça, là, c'était à huis clos. Habituellement, on fait ça devant une foule, à peu près 20 000 personnes. Il y a vraiment 20 000 personnes qui se déplacent pour aller voir des gens là engouffrer des roteux un après l'autre. Et là, Joey Chestnut, hier, tentait de battre son propre record puisqu'il détient les 6 records mondiaux pour le plus grand mangeur de hot dog. Mm-hmm. Hier, il a battu son propre record, 75 chiens chauds en 10 minutes.
En 10 minutes.
Tabarouette.
Mais il met ça où?
Il est pas
bonne
gros,
question.
Là.
Non.
Ah oui, il est tout petit, là.
6 pieds 1, 230. Il est loin d'être un obèse, là.
Non, c'est quand même une bonne shape, là.
Ouais,
mais 6 pieds 1, 230.
Ouais, 6 pieds 1, 230. J'ai fouillé un petit peu sur le gars hier, ouais. Puis lui, il gagne vraiment sa vie avec ça depuis une dizaine d'années.
Parce qu'il n'y a pas juste ce concours-là. Non. Il y en a d'autres ailleurs dans le monde puis aux États-Unis.
Ouais, il détient 12 records mondiaux. Dans des catégories différentes, que ce soit les hot dogs, les ailes de poulet, les tacos, les poutines, tarte aux pommes, burritos. Je peux continuer.
Ça fait que lui, il s'est développé une habileté pour ne pas avoir à payer beaucoup pour sa bouffe.
Exact.
Parce que j'imagine que les 75 hot dogs, hier, il n'a pas payé un.
Non, il n'a pas payé un. Puis, comme tu disais plus tôt, c'est pas le prix des hot dogs du Sandbell.
Sans doute.
Parce que, à 75, à 10 quoi, piastres, c'est 10 piastres chacun, 8, 9.
C'est 750 piastres.
C'est de l'argent, hein? C'est de l'argent pour des hot dogs. Non, puis il mange ça.
Hey, Colin, finalement, laisse ton vin.
Il y a une technique derrière ça. Tu peux pas enfiler 75 hot dogs européens, un après l'autre, en le dégustant, justement. Il y a une technique derrière ça. Premièrement, il met aucun condiment. Il n'y a aucune garniture. Puis il trempe même son hot dog dans l'eau avant de se le rentrer dans la bouche.
Parce que ça passe mieux dans les tuyaux, probablement.
Mieux. Exactement. Ça devient un peu plus petit parce que le pain ou sinon reste pris dans l'œsophage.
Ouais. Sauf que l'eau, même s'il y en a peu à chaque hot dog, elle est là pareil, puis elle prend de la place dans l'estomac.
Elle prend de la place. Mais là, après ça, il prend à peu près une quinzaine de verres d'eau en 10 minutes pour faire rentrer le tout. Et puis là, c'est...
Puis il repart.
Mais après, sa technique, c'est ça. Il n'a pas le choix de faire tout sortir. Là. Il n'a pas le choix. Après la compétition, parce que...
OK, il garde pas ça.
Non. Tu peux pas demander
que
à...
Sinon, ça serait pas 230. Son poids.
Tu peux pas demander à tes intestins et ton système digestif d'absorber tout ça. Mm-hmm. Ça n'a pas de maudit bon sens. Okay. Mais lui, vraiment, il s'est créé. C'est le Wayne Gretzky de la MLE, la Major League Hating. Lui participe à peu près une dizaine de compétitions par année, la plupart du temps aux États-Unis. Tu comprends que ces compétitions-là, on fait pas ça en Chine. T'sais.
Okay.
C'est la plupart du temps aux États-Unis. Ouais. Et lui, c'est le Wayne Gretzky de la MLE.
Okay. C'est pas toujours des hot dogs, par exemple.
Non, c'est pas toujours des hot dogs. Des ailes de poulet, il a mangé une cinquantaine de Big Mac en 10 minutes aussi.
Mais tu parlais d'Asiatique, il y a quelqu'un qui nous a écrit au 25226, peut-être que vous le connaissez, les gars. Allez voir des vidéos de Max Stoney sur YouTube, il est très impressionnant. Et ce serait un petit Asiatique. Je ne sais pas s'il fait partie de la MLE.
Ça se peut. Ça se peut très bien. Je sais qu'avant, c'était justement un Asiatique qui torchait la MLE avant l'arrivée de Joey Chestnut.
Puis, as-tu vu aussi comment il se prépare avant les compétitions?
Vas-y, voir.
Ça, c'est impressionnant. OK, il expliquait parce que là, oui, tu nous disais qu'il trempait son roteux dans son verre d'eau pour que ça passe mieux, mais lui, il commence à s'entraîner au mois de mai. Donc, ça lui laisse quand même plusieurs semaines de préparation et il fait un entraînement qui dure, en fait, c'est sur 6 jours où il doit se préparer. Donc, par exemple, une journée où il va manger, il appelle ça une vegetable fiber, donc une journée il va manger énormément que des légumes, des fruits, tu sais, ça aide justement à faire l'espèce de clean up comme on dit de l'intestin. Une journée il va faire une grosse journée de protéines, fait qu'il dit soit que ça va être de la dinde, du poisson, tu sais, que des protéines. Ensuite de ça, la journée qui va suivre ou deux journées plus tard parce qu'il va laisser un espace, ça va être que des liquides pour vraiment faire le nettoyage et ensuite on recommence deux jours de clean day, comme on dit. Donc, encore une fois, une pause. Il va reprendre avec les vegetable fiber. Fait que c'est vraiment au mois de mai. Puis il dit, il n'y a pas de diète précise. Lui, pendant toute l'année, il fait ce qu'il veut. Mais à partir du mois de mai, c'est vraiment un rituel. C'est comme aller à la messe.
Parce que la saison des concours commence.
Exactement. Puis comme on l'a dit, là, il fait quoi? 6 pieds et 1? Il fait 230 livres?
Ouais, exact. 230.
Hey! Colibine, je suis désolée, mais si je mangeais autant de roteux comme lui, puis toute la diète alimentaire qu'il fait, là, vous m'appelleriez Pouffy Marie. Là.
C'est un entraînement au même titre qu'un athlète qui se prépare à aller lever de la fonte dans le gym. Quasiment, là,
c'est un autre genre d'entraînement. C'est ça que je trouve extraordinaire.
Mais ça n'a pas de bon sens.
Renversant.
Il boit-tu un galon de Pepto-Bismol après la compétition?
Il est commandité par la compagnie.
C'est ça, il a peut-être une commandite.
Mais sérieux, son salaire annuel, il a à peu près une fortune de 1,5 million, ce gars-là. Puis annuel, il gagne entre 250 et 500 000. Tous les bonus qu'il fait, puis les bourses qu'il gagne avec les compétitions, mais également, il y a des commandites, entre autres Burger King, entre autres Taco Bell, entre autres PFK. Tu comprends que c'est ce genre de restaurant-là qu'il commandite, là. Puis il y a également une gamme de condiments à son nom. Il vend de la moutarde, il vend de la trempette, de la sauce piquante. Fait que le gars, il s'est créé un brand, là. Vraiment, là. Puis il gagne sa vie simplement en mangeant puis en enfilant 75 hot dogs en 10 minutes.
Ah, mais c'est un happening. Regardez ça, t'sais, comme tu l'as dit. Là,
il sue à grosses gouttes. Ça a l'air pénible et souffrant comme c'est pas possible.
J'en mangerais trois puis je trouve que je commencerais à suer, moi.
Il détient 12 records du monde dans 12 catégories différentes.
Poutine,
Vez, il en a mangé 25,5 livres en 10 minutes.
Hey, 25 de 2,6, mettons, là, les mangeurs de
dogs. Attends, répète-moi ça, là.
25,5 livres de poutine.
C'est gros, là.
En 10 minutes.
En 10 minutes encore.
25 livres en 10 minutes. 25 livres en 10 minutes.
C'est de la poutine, ça.
Ça n'a juste pas de sens.
Mais c'est pour ça, là. Il y en a-tu qui sont capables, mettons, votre record de dog, les gars, puis on vous le demande au 25 de 2,6, c'est quoi la plus grande capacité que vous avez déjà ingurgité, mettons?
Ça doit être 10, peut-être. Mais pas en 10 minutes, là.
Ouais,
pas en 10 minutes. Impossible.
Le plus de poutine...
Ou d'hot dog, là, tu sais, vraiment, là, que tu disais, hey, c'était gros, puis j'étais bourré après.
Le plus que j'ai peut-être mangé... Eh, Seigneur, j'ai... Peut-être 4 hot dogs.
4?
Un peu décevant. Non,
je peux pas m'inscrire dans ce concours-là, là.
Non?
Non, je peux aller être le cheerleader, mais pas plus que ça, là.
Je te verrais commenter ça, Vez.
Ah, écoute.
Oh, il enfile son 8e hot dog.
Ça, je peux le faire, oui. Oui? Oui, puis je vais en manger un ou deux pour l'encourager, là, mais...
Tabarouette. Pas de bon sens.
Plus que 3-4, là, moi, c'est terminé, là.
Les ailes de poulet, son record, c'est 182 ailes en 30 minutes. Ouais, il s'est laissé 20 minutes de plus.
En 30 minutes, 182 ailes?
Ouais.
Sacrilège.
Mais des ailes, pas gros, par exemple. Non. Mais ça dépend, sont-ils bien épicés?
C'était des buffalo qu'on dit.
Fait OK, donc c'est pas trop épicé.
Quand même pas trop épicé, là. C'est loin de 9 à 1, puis suicide, puis les autres.
Oui, c'est ça,
oui.
Ouais, ouais. Mais quand même, 180 ailes, c'est du stock.
Puis le gars gagne sa vie avec ça.
Est-ce qu'il retourne chez eux en volant après, non?
Il doit être dans un coma.
Il doit rouler, là. Il place sur le côté, puis ils le font rouler, là.
Oh, oui, mais il pousse des ailes parce qu'il a mangé 180 ailes. C'est
mais moi, mon plaisir coupable, là, c'est les petits toast strudel, tu sais, dans les boîtes de 6 de Pillsbury. Là.
Les congelés, là?
Ouais, les congelés. C'est comme en rectangle.
Les petits chaussons aux pommes, là.
Le genre de petits chaussons, okay, mais c'est vraiment...
Avec le glaçage.
Avec le glaçage, oui, exactement. Okay, c'est juste à côté des chaussons. Là. Oui. C'est vraiment écrit Toast Strudel, fait par Pillsbury, mais c'est le même principe un peu. Mm-hmm. Ça, là, ouf, des fois, quand j'achète même deux boîtes, je peux les finir dans la même soirée.
Ah oui, tu leur sens qu'une volée?
Oui, oui.
Ils n'ont aucune chance.
Non, je leur montre c'est qui le boss, là.
On se tourne à l'international, mais ici, à Québec, là, on en a des gens qui mangent pas. Pire, on a reçu au 25226 François qui nous raconte qu'il a déjà gagné 100 $ pour manger 10 Big Mac en une heure. Puis là, là, il dit j'en ai réussi 6,5, c'est mon top.
6,5
mon top.
6 Big Mac and me en une heure.
Colandebine.
C'est déjà pas mal, je trouve.
Il y a quelqu'un d'autre?
Une heure, t'as le temps de digérer quand même. Tu te laisses un petit répit de 10 minutes avant de recommencer.
J'ai mal juste à aller.
Mais c'est un Big Mac, là. C'est pas juste un petit cheeseburger tapé, là.
Il trempait-tu dans l'eau, tu penses?
Je sais pas.
On a quelqu'un qui nous raconte qu'il y a un gars à la belle province de Charlebourg qui prend tout le temps 12 stimés avec une frite à chaque fois. Bon matin, moi, c'est 37 hamburgers depuis 2013. 37 hamburgers.
Ouais, mais depuis 2013. En 7 ans. C'est un gag. Parce qu'elle l'a lu sur le fly. Elle n'a pas eu le temps de saisir.
Hey, Colin, c'est pas là que je vais avoir eu l'air brillante, hein?
Pas là.
Correct, je le prends sur mes épaules.
Mais c'est le fun parce qu'on met ça dans le département des sports tout le temps. Chaque année,
ben oui.
C'est RDS en a parlé. Toi, t'en parles comme gars de sport. C'est, quand on en parle dans les journaux, c'est dans la section de sport tout le temps. Mais je sais pas pourquoi. C'est parce qu'il y a un entraînement avant? Ou...
Écoute, c'est son 13e championnat, Joey Chestnut. Il devance Raphaël Nadal qui a gagné 12 fois Roland Garros.
On parle pas du même sport.
Margaret Court qui a gagné 11 fois les internationaux d'Australie. Oui. Bill Russell qui a gagné 11 fois un championnat de la NBA, tout comme Henri Richard. Donc, devant tous ces grandes légendes-là, il y a Joey Chestnut, le mangeur de hot dogs.
Qui sera une légende dans son domaine.
Oui, c'est clair.
Assurément.
C'est le Wayne Gretzky de la MLE.
Je veux qu'on parle de sport, de Formule 1, parce que c'est le premier Grand Prix de la saison cette semaine en Autriche. Il y aura un autre Grand Prix la semaine prochaine, toujours en Autriche. Et tu veux jaser un petit peu d'une série sur Netflix que j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder parce que je suis un amateur de Formule 1 et de course automobile en général, qui s'appelle Formula One.
Oui.
C'est en anglais, mais il y a des sous-titres. C'est assez facile à suivre. Mais
exact.
C'est vraiment, vraiment fascinant.
J'ai adoré. Et j'adore le sport, Vest, tu le sais, mais je suis moins friand des sports automobiles. Je sais pas, j'ai jamais eu vraiment la piqûre pour le NASCAR, la Formule 1. J'ai trippé quand je suis allé pour la première fois en direct pour le Grand Prix à Montréal. Mais c'est un sport qu'on connaît un peu moins, j'ai l'impression. Pour n'importe qui, tu sais, on gravite dans le monde du hockey, les sports d'équipe. Tu sais, au hockey, on sait comment ça fonctionne. La relation entre...
Parce qu'on a à peu près tous joué ou on connaît quelqu'un qui a joué au hockey.
Exact.
C'est notre sport
plus
national,
ou moins le niveau,
aussi.
On sait comment ça marche.
Ou un père, un oncle qui est entraîneur.
Ouais, ouais, ouais. Mais on connaît pas grand monde personnellement qui a fait de la course automobile de haut niveau.
Non, puis de l'extérieur, du regard extérieur, mettons, avec surtout dans les 2-3 dernières années, avec l'arrivée de Lance Stroll, le Québécois, et son père qui a beaucoup d'argent, on s'est dit, ouais, dans le fond, c'est juste un sport de riche, puis c'est juste des fils de riches qui se rendent là.
Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière les en coulisses, qu'on voit pas, qu'on soupçonne même pas.
C'est ça. Mais oui, ce sont des gosses de riches, on s'entend.
Oui,
mais
c'est malheureusement ça maintenant. Ça prend de l'argent plus que du talent pour être en Formule 1.
Parce qu'il n'y a pas de catégorie novice, ça tombe, puis oui, tu gravites, tu fais des compétitions de karting, là, tu dois avoir ton propre karting, ça coûte pas... Puis à faire rouler, à faire réparer, avoir des mécanos et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent pour te rendre jusqu'à dans la Formule 1, mais moi, j'avais cette pensée-là, Vez, et cette vision-là, que c'était juste des gosses de riches, et c'est le cas, mais par contre, pour te sacrer dans une Formule 1 avec un volant et une machine entre les mains qui va de 320 à 350 km/h, sérieux, là, ça prend des couilles énormes. Énormes.
Ah ouais, c'est,
ça prend
c'est
du guts, comme on dit en bon français.
Puis la série Formula 1 sur Netflix, c'est tellement bien tourné. En fait, je sais pas comment ça a coûté à Netflix pour avoir accès à toutes les coulisses de la Formule 1. Mm-hmm. Écoute, tu assistes à des réunions d'après-course avec les pilotes, les ingénieurs, puis les pilotes, et quand ça a pas bien été, ils se gênent pas pour le dire à leur patron, à leurs ingénieurs principaux, à leur chef d'écurie, pour dire la voiture, c'est de la chenoute. Il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on peut pas continuer comme ça.
Moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné, Vez. La relation entre les pilotes et les mécanos, les ingénieurs et tout ça, c'est ce qui m'a le plus impressionné dans la série. On voit vraiment que le travail de coulisses là, est probablement pas mal plus important que le travail fait sur la piste.
Ah, absolument. C'est...
Puis on le comprend vraiment bien dans la série.
Ben, oui, puis tu sais, quand je disais tantôt, oui, c'est plus l'argent que le talent qui t'amène en Formule 1, mais en même temps, c'est plus la machine que le talent qui te fait gagner des courses.
Ben, c'est ce que j'allais te demander. Eh ben, vous demandez, comme je suis pas nécessairement une fan, puis une très grande connaisseur, en termes de pourcentage, le bolide sur ta carrière, il prend combien de pourcents comparativement à ton talent? Est-ce qu'on dit que le talent est là à 30% puis le bolide à 70%?
Ben, moi, je pense que ça peut ressembler à ça.
Carrément ça que j'allais dire. J'allais dire 30-70, moi.
Oui, ça peut ressembler à ça. Oui, absolument.
Puis c'est quand même le plus grand pourcentage en faveur du bolide, là.
Écoute, tu prendrais le moins bon des 20 pilotes qui sont en Formule 1, tu lui donnes la Mercedes de Lewis Hamilton, puis il ferait sans doute un top 5. Sans doute.
Fait que c'est pour ça que dans les dernières années, quand on a eu des Ferrari qui ont dominé, par la suite, il y a eu Red Bull, Renault qui est revenu, maintenant c'est Mercedes. Pas boire rien que ce sont ces écuries-là qui gagnent. Mm. Hein, ils ont de l'argent, ils ont du bidou.
Oh, oui. C'est,
pour engager les meilleurs ingénieurs, exact. Pour former les meilleurs bolides et tout ça, les construire. Puis j'ai vraiment aimé ça, Vez, de tout ce qu'on peut comprendre de la subtilité que nous, quand on s'assoit pour regarder le Grand Prix un dimanche, on ne voit absolument pas ces trucs-là.
Tout ce qu'il y a en arrière qu'on voit pas, qu'on soupçonne pas en termes de préparation, en termes de budget, on parle beaucoup d'argent dans cette série-là. Puis l'importance de l'argent, il y a des écuries comme Williams avec laquelle avec débuté Lance Stroll.
Que papa a acheté, là?
Il avait commandité. Parce que l'écurie appartient à Frank Williams.
Oui, c'est vrai,
et Claire Williams, qui en est la patronne maintenant. Mais il a acheté l'écurie Racing Point, qui était
Force India.
Ouais. Alors bref,
c'est comme si ton père achetait les Remparts de Québec pour aller jouer dans le club junior qui appartient à ton père. C'est ça, pour vrai. Là.
On voyait ça dans les années 70. Là, des fois, il y a des joueurs qui étaient juste sur le bord, mais pas assez bons pour faire le 2A. Là.
Ouais.
Le père payait les tucs puis les manteaux à toute l'équipe. Le fils faisait l'équipe.
Ouais, je pense que ça se fait encore.
Mais vraiment, si... Il y a des gens qui ont vu cette série-là, qui sont pas nécessairement des amateurs de course automobile, qui ont découvert l'univers de la course automobile avec cette série-là, puis qui vont peut-être regarder la course ce matin alors qu'ils l'auraient pas regardé sans voir
la
série.
C'est un peu mon cas, Vez.
Ouais.
Je suis même pas un fan de Formule 1, mais j'ai apprécié cette série-là, un peu comme bien des gens ont apprécié la série de Last Dance avec Michael Jordan.
C'est
sans
dans le même
nécessairement
genre.
Triper sur le basket.
Exact. Hein. Je suis là-dedans. Moi, je trippe pas basket, mais j'ai adoré la série de voir les bébites qu'il y a dans ce sport-là. C'est vraiment des bébites.
Ben oui.
Mais on voit un autre type de bébite en Formule 1. Les pilotes de Formule 1, c'est des bébites.
Hey, Lewis Hamilton, ça en est une méchante bébite quand même.
Ils ont tous leurs habitudes. Ils ont tous des relations plus ou moins bonnes avec d'autres pilotes. Ton plus grand adversaire, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas le gars c'est pour Mercedes, c'est pas les pilotes Ferrari.
Non, c'est
l'autre pilote Mercedes.
C'est
ton
coéquipier
qui est ton plus grand adversaire.
C'est spécial.
Parce que c'est avec lui que tu vas te faire comparer parce qu'ils ont les deux la même machine. Alors, c'est ton plus grand adversaire, celui qu'il faut que tu battes, c'est ton coéquipier.
Mais c'est pas surprenant qu'il y ait autant de bébites dans ce genre de sport-là parce que ta vie au complet est consacrée simplement à ça. Je veux dire, tu dois y penser le soir, tu dois te réveiller en plein milieu de la nuit parce que tu viens de trouver pourquoi ton bolide, justement, n'était pas à la hauteur de ce qu'il aurait dû être. Fait que c'est sûr et certain que, sans dire que c'est des personnes bien équilibrées mentalement, c'est pas là que je veux aller, mais c'est sûr et certain que quand t'es tout le temps là-dedans, quand tu fais juste parler de ça, tu vires un peu bébite, là.
Oh, oui.
Et puis, Vez, corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, des choses comme Rubens Barrichello dans le temps de Ferrari qui s'arrêtait avant la ligne d'arrivée, même s'il était premier, pour laisser passer Schumacher pour qu'il termine premier, ça se fait plus, ça.
Ça
se fait encore.
Ça se fait encore, mais c'est plus
subtil. Volontairement, l'ingénieur ou le commandant chef.
On le voit dans la série à un moment donné avec. C'est-tu Verstappen?
Oui, Verstappen et l'autre Ricciardo qui était là à l'époque.
Daniel Ricciardo, avant qu'il parte pour Renault. Effectivement. Puis on voit les enjeux économiques aussi. Red Bull qui avait un moteur Renault, qui a décidé de laisser tomber le moteur Renault pour un moteur Honda. Puis les faces des deux boss de Renault et de Red Bull, là, c'est magique dans une conférence de presse où ils font l'annonce du changement. Là. Parce que pour Renault qui perd un client pour son moteur, il perd des millions de dollars.
Des millions, oui.
Alors, c'est fascinant comme univers.
Puis moi, c'était des subtilités que je ne connaissais pas, que j'ai appris dans cette série-là. Fait que non, j'ai adoré.
Peux-tu nous rappeler le nom de la série, s'il te plaît?
Formula One, comme le dit. Fait que F1, tapez ça dans le barre de recherche. Il y a deux saisons jusqu'à présent.
Ouais, deux saisons de 10 épisodes.
Ça s'écoute bien, c'est
32-33 minutes à chaque épisode.
Puis vous n'avez même pas besoin d'aimer le sport ou la Formule 1 pour apprécier cette série-là.
Moi, je l'ai écouté en anglais, sous-titré en français, parce que des fois, c'est souvent de l'anglais british. Il y a plein de nationalités là-dedans, ça fait que l'anglais est tout croche. Surtout l'anglais des Français qui est extraordinaire.
Ah, c'est tout.
Qui n'a rien à comprendre.
Oh,
Very disappointed.
Toulouse Disrone.
Voilà. Puis je me suis fait suggérer hier une autre série sur Netflix. Ça n'a pas rapport avec le sport, mais presque, en fait, presque pas. Ça s'appelle, je pense que c'est 10% ou selon le, c'est, ça a un nom en France, puis ça a un nom ici. C'est 10% ou encore parler à mon agent.
Okay.
Ça raconte ce qui se passe dans une agence de représentation d'artistes, d'athlètes, d'acteurs, comédiens, etc. Dans une agence, là, où, puis il y a plein de vedettes qui jouent leur propre rôle là-dedans, apparemment. Alors, on découvre un peu probablement comme la série Formula One, les dessous de la représentation de vedettes.
Intéressant.
C'est sûr que c'est la prochaine que j'entame, là.
Est-ce
que je vais la regarder au complet? Je verrai, mais je vais y donner une chance.
OK. Parfait. On s'en reparle traité, Bess.
Excellent. Il est 8h29 au FM 93. On va faire le petit tour de temps. Puis tout de suite après, on va parler de ce qu'il y a à découvrir. On avait commencé le truc la semaine dernière avec quelqu'un de l'Office du tourisme de Québec. Mm-hmm. Alors, on va poursuivre la série. Pour inciter les gens, parce que probablement qu'il y en a beaucoup qui vont changer leur plan de vacances par rapport à ce qu'ils faisaient dans le passé. Puis on va peut-être plus rester en ville, puis on va vous donner des suggestions de choses à découvrir chez vous dans la région de Québec.
On parlait de Formule 1, Vez, juste on va se laisser avec ce classique d'Elvis Graton.
Ah oui.
T'as bien raison, Néo. Le Grand Prix d'Espagne, c'est bien meilleur.